Dans le monde de l'entreprise, il y a énormément de travaux en ce moment sur la comptabilité. La grande question, c'est comment on sort du profit. Donc sortir de la croissance au niveau d'une nation, c'est sortir du profit au niveau de l'entreprise. Vous avez énormément de travaux sur la comptabilité triple bottom, donc people, planète, je sais pas quoi. Il y a des travaux français sur, j'ai vu récemment une interview sur le site Non-Fiction d'un des chercheurs qui travaille sur cette question-là. Donc la question, c'est changer les règles comptables. En fait, la réflexion aujourd'hui, c'est de dire que PACTE, la loi PACTE n'a pas été assez loin du tout sur cette question-là. La raison d'être, etc., ça reste très largement conditionnel. Le cœur du réacteur, c'est la comptabilité. Si vous avez des règles comptables qui vous empêchent concrètement, donc par exemple Alain Grandjean, d'accord, qui est aujourd'hui vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, travaille sur cette question de la comptabilité d'entreprise, de comment on change les règles comptables. C'est d'ailleurs aussi valable au niveau européen. Enfin, j'en ai pas parlé, mais les règles comptables, elles sont aussi au niveau européen. Si on gouverne l'Europe avec le pacte de stabilité et de croissance, il n'y a aucune chance pour qu'on fasse le Green Deal, absolument aucune chance. Il y a une bataille féroce en ce moment même au Parlement européen sur, entre la Commission et le Parlement, sur le fait de changer ou pas les règles européennes, dont on sait qu'elles ne sont pas du tout des règles du 21e siècle. Mais au niveau des entreprises, c'est ça. La question fondamentale, c'est voilà. Donc, je pourrais vous envoyer des liens, je ne les ai pas là, mais aucun souci, je vous envoie des liens, trois ou quatre trucs sur... il y a eu un papier dans Libé récemment.
Le bilan carbone, si je connais aussi, c'est la difficulté.
Ouais, la question
du bilan carbone. En fait,
voilà, carbone, mais c'est.
Ouais, obligatoire autant que les bilans comptables.
Et dans certaines mesures, les entreprises sont plus avancées que les États. Parce que pour les entreprises, pour certaines entreprises en tout cas, c'est une question de survie. C'est-à-dire, comme elles ont des actifs échoués, elles ont des actifs dont elles savent en fait qu'elles ne peuvent plus les valoriser dans leur bilan, parce qu'en fait, ils vont être retenus. Du fait des lois climat, en fait, elles sont obligées de s'adapter. Mais vous avez aussi des comptabilités en biodiversité, en écosystème, en empreinte, etc., qui vont très au-delà de la RSE. La RSE, c'est vraiment dépassé aujourd'hui, de ce point de vue-là. On est vraiment dans une nouvelle génération de réflexion sur la comptabilité d'entreprise. Donc il y a plein de choses qui se passent de ce côté-là.
Je m'empare de la parole, parce que sinon, Patrick ne me la donnera pas. Parce que je pense que c'est une question qui peut nous éclairer tous, puisque si je me la pose en général, c'est que comme je suis plutôt moins maligne que les autres, c'est qu'il va y en avoir quelque chose qui s'appelle.
Oui,
ce que je comprends pas, en fait, c'est pourquoi vous parlez justement d'indicateurs et pas de comptabilité quand on parle de comptabilité, quand on en vient aux politiques publiques. On est allé à Grenoble le mois dernier, on a eu une présentation de la part des personnes qui à Grenoble réfléchissent et manipulent ces indicateurs, c'est tout à fait intéressant, mais en réalité, je n'ai pas été vraiment bluffée par le caractère opérationnel de ce qu'elles font. Et effectivement, toute la question, c'est en quoi ça devient un levier de politique publique. Et on voit très bien pourquoi le PIB, c'est un levier de politique publique, parce que ça impacte les recettes des décideurs. Alors, un indicateur qui impacte vos recettes, on y est forcément attentif. Donc, le truc, c'est qu'il faut vraiment désencastrer de manière beaucoup plus profonde qu'en faisant des indicateurs. C'est pour ça que moi, la question de l'indicateur me laisse toujours songeuse et je me dis que la vraie racine, c'est la réforme de la comptabilité. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes publics ?
Alors, c'est pas seulement la réforme de la comptabilité, parce que la comptabilité publique, c'est une partie du problème. Pour l'État français, c'est pas un problème de comptabilité publique. Pour l'État français, c'est un problème de présentation du débat budgétaire sous l'égide donc d'informations statistiques. C'est un problème de documents budgétaires, les annexes budgétaires qui sont données par Bercy, et la manière dont Bercy présente l'état de la nation à la représentation nationale. C'est pas une question de comptabilité, c'est une question de sélection d'indicateurs. D'accord ? Il y a deux problèmes différents. Il y a un problème de comptabilité publique. La comptabilité publique, je parlais d'M14, etc., pour les municipalités, c'est contraint en termes de présentation du budget, de débat d'orientation budgétaire, ensuite de présentation du budget. Donc il y a une vraie réflexion sur le format. Mais il y a une réflexion plus importante encore à avoir sur la sélection des indicateurs, sur ce que l'on vise et comment. Et donc il faut bien, réfléchir aux indicateurs. Je sais que le terme indicateur est rebutant, mais indicateur, dans son étymologie, c'est l'index, c'est-à-dire c'est ce qu'on pointe, donc c'est ce qu'on voit. Donc en fait, indicateur, c'est puissant, parce que l'indicateur, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on voit et tout ce qui est invisible autour. Et donc ce qui compte, c'est ce qu'on compte, c'est ce qui compte, et ce qu'on ne compte pas, c'est ce qui ne compte pas. D'accord ? What is not measured is not managed. Bon. Donc l'idée fondamentale, c'est de dire, bah oui, il faut d'abord créer un momentum autour de la question du choix des indicateurs. Parce que c'est surtout pas les experts qui vont choisir les indicateurs. On va pas, si vous voulez, pendant 80 ans dire voilà le bon indicateur, et puis après on va dire bon, on a décidé entre nous, en fait le bon indicateur c'est pas le PIB, c'est celui-là, et puis vous allez l'appliquer. Donc il faut en fait, dans les territoires, faire des conférences citoyennes sur le bien-être. La convention citoyenne sur le climat, je vous indique juste, la convention citoyenne sur le climat, 150 personnes tirées au hasard dans la France, ils se sont jamais parlé, jamais vu, etc. Première session de la convention, quel est le principal obstacle à la transition écologique ? Réponse, l'obsession pour la croissance. Première réponse qui est donnée. D'accord ? Donc vous mettez ensemble des gens, évidemment ça ne doit pas être un indicateur. Ça ne doit pas être un indicateur universel, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas le même indicateur du bien-être à Paris qu'à Grenoble ou à Bordeaux. Ce n'est pas les mêmes priorités, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes questions. Donc il faut des conférences citoyennes pour créer un débat sur le bien-être, d'accord ? Mais les experts en font partie, mais en font partie comme les autres, mais ce n'est pas eux qui tranchent. Mais en effet, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « comment on mesure la santé ?» Il faut quelqu'un qui sache les indicateurs qui existent, les données qui sont fiables, ce que les différents indicateurs vont mesurer, etc. Le choix va être fait par une convention citoyenne, d'accord, une conférence citoyenne. Après, il peut y avoir des allers-retours sur affiner les choses. C'est ce qu'ont fait le Canada sur, quand ils ont fait leur well-being index. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait, ils ont présenté un premier modèle, ensuite ils ont fait un test pour savoir ce que les gens retenaient, ils ont rechangé le truc, ensuite ils l'ont appliqué, etc. Et après, la question, c'est affiner les indicateurs, après les faire rentrer dans les politiques publiques, c'est-à-dire savoir où on les met, à quel moment on va décider que ce qu'on va augmenter, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande l'année dernière avec le premier budget de bien-être, la Nouvelle-Zélande, petit pays gouverné par une femme, vote en mai 2019, pour la première fois dans son histoire, un budget de bien-être. Et dit la priorité maintenant, c'est pas le PIB, c'est la santé des enfants. Voilà, la santé des enfants. C'est la santé physique, la santé mentale, et notamment la santé des enfants. C'est exactement ce qu'a dit le Lancet il y a un mois quand ils ont fait leur grand papier. Ils ont dit la clé pour comprendre le développement dans le monde, c'est la santé des enfants. Évidemment que c'est la santé des enfants. Bien sûr que c'est pas le PIB. Évidemment que si vous voulez savoir où va un pays, il faut regarder la santé de ses enfants. Et que c'est là-dessus qu'il faudrait absolument tout cadrer. Et évidemment pas l'évolution de la croissance. C'est intuitif en fait. Voilà. Donc la question après, c'est vous discutez avec les gens qui font les politiques publiques, par exemple ce qu'on est en train de faire avec Dominique Bourg avec la ville de Genève, qui est bah, comment vous faites vos budgets, etc. Qu'est-ce que vous allez prioritariser ? Je vous donne un autre exemple, la Finlande. La Finlande, l'année dernière, vous avez 4 pays l'année dernière qui ont pris des décisions très importantes en matière de bien-être. La Finlande, l'Écosse, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Tous les 4 gouvernés par des femmes. D'accord ? Ces 4 pays-là, la Finlande dit... On va prendre 2 critères et 2 seulement. On veut être un pays qui ne discrimine pas, on veut être un pays qui est efficace du point de vue de la gestion des ressources, pas efficace économiquement, efficace écologiquement. Et on va passer au budget, au CRIB, tout notre budget, pour voir ce qui contrevient à ces 2 objectifs-là. Et ce qui contrevient, on l'enlève. On l'enlève soit cette année, soit les années à venir, mais on prend comme engagement de... Ça s'appelle le green budgeting. C'est-à-dire, vous faites un crible social et environnemental de votre budget et vous regardez tout ce qui contrevient aux indicateurs que vous vous êtes donnés. D'accord ? Bercy a fait l'exercice là, ils ont trouvé 25 milliards d'euros de dépenses qui sont anti-environnement dans le budget français. 25 milliards. Le gouvernement en a corrigé 120 milliards. D'accord ? Mais l'exercice est fait et on a le chiffre. Donc la question, c'est pas le green budgeting, c'est une façon de faire. Et une fois de plus, vous faites ça dans un back and forth, dans un aller-retour permanent avec les citoyens. Et après, vous évaluez les gens. Ok ? Confidence. Quand Piolle a été élu, je vois Piolle qui voulait me voir dans ce bureau très bizarre, années 70. Vous dites, Michel Pfeiffer va surgir à un moment de derrière les trucs en miroir. Et donc, et voilà, enfin, Éric Piolle, Michel Pfeiffer, bon, je sens que c'est violent, mais c'est pas grave. On commence à discuter sur précisément ça. Et je lui dis, sur quoi vous allez être évalué ? Sur quels critères dans 6 ans on vous évalue ? Et pas de réponse. Il n'y a pas de choses mises en place sur l'évaluation. Moi, je voudrais un tableau de bord avec 10 indicateurs social et écologiques sur lesquels je puisse juger quelqu'un, ce qu'il a fait en 6 ans. Après, on peut dire on n'a pas le temps, il y a des trucs qui sont inertes, il y a des effets d'hystérésis, la qualité de l'air, ça ne s'améliore pas comme ça, etc., etc. Mais par exemple, on n'ait pas en France eu un débat sur la qualité de l'air dans les 10 plus grandes villes françaises, où elle était en 2014 et où elle est aujourd'hui, je trouve que c'est un énorme problème. Et ça détermine la santé de dizaines, de centaines, de milliers d'enfants. Enfin, je veux dire, c'est fondamental d'avoir ce débat.
Mais peut-être à partir des journées d'hier, on va rencontrer des 7 ans.
Moi, je à la santé, vous focalisez sur la qualité de l'air, qui est un objet très important. Il me semble qu'il y a un autre objet qui est l'activité physique, l'absence d'activité physique et la sédentarité. Et là, pour le coup, par rapport à la qualité de l'air, c'est 1 à 2 ordres de grandeur. Donc,
sur la santé humaine ?
Oui, sur la santé humaine. Tant en termes de mortalité qu'en termes de morbidité. Mm-hmm. Et donc, pour moi, en plus, ça, par chance, ça va dans le même sens. Les villes, la vie des enfants, les seniors, etc., sont d'abord des villes où on marche et où on se déplace autrement qu'avec une voiture.
Mais très bien, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord
là-dessus. Ça contribuerait à crédibiliser le propos.
Oui, oui, mais c'est la question de la santé-environnement. Tout ce qui est santé-environnement, dans l'axe que j'ai défini comme santé-environnement, est bienvenu. Et je peux vous dire, on peut aller plus loin, la question de l'alimentation. Le débat sur la justice alimentaire en France, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Les gens ne savent pas ce que c'est. Moi, je me souviens d'avoir déjeuné au ministère de l'Agriculture avec un ministre. On voit des jeunes extrêmement bien au ministère de l'Agriculture. C'est bien, ça reste la France. OK ? Mais justice alimentaire... voilà, ça n'existe pas. Or, c'est une question absolument majeure dans la définition ensuite de la santé en termes de plein de résultats.
Next. Merci beaucoup pour cette intervention. Il faudrait négocier un temps de parole plus long parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et pas assez approfondies à mon goût. Moi, j'ai deux sujets que je trouve intéressants avec le débat. Le premier, c'est celui dont on a beaucoup parlé ce matin et là, pas du tout. C'est la place de l'État là-dedans. C'est-à-dire, peut-être que ça allait beaucoup, que je n'ai pas entendu, mais. C'est beaucoup, l'avenir est dans les villes, l'avenir est dans les territoires. Or, la question de la coercition, de l'empêchement de changer la donne, d'interdire, de ne pas différer des décisions qui seraient favorables à une meilleure prise en compte environnementale, tout ça me semble aussi un levier qu'on est en droit d'attendre. Première chose, donc le rôle de l'État dans tout ça, et quand est-ce qu'il le prend. Et deuxième chose, c'est la question des coûts évités. C'est-à-dire que moi, j'entends très bien l'idée d'avoir une comptabilité qui montre les coûts générés par la non-prise en compte de l'environnement. Mais il me semble qu'il y a vraiment un levier très important qui serait d'obtenir de la trésorerie pour agir en évitant des coûts à long terme. Et donc, si on arrivait à capitaliser tous les coûts évités et donner des moyens pour les politiques publiques d'aujourd'hui qui permettront d'éviter des coûts demain, ça serait un formidable levier pour trouver des marges de manœuvre pour financer cette transition écologique et sociale. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée une nouvelle politique publique, il faut l'indexer sur le prix du tabac, le prix de l'alcool, le prix du porno, un peu le carbone, mais on ne va pas très loin. Donc, quand est-ce qu'on arrive à les indexer sur les coûts évités ?
Les prix du porno, vous avez dit ? Quelle politique publique est indexée sur
le prix du porno ? C'est des souvenirs d'études de droit.
Ah, c'est des souvenirs d'études de droit.
Non, mais c'est pas une blague. Quand il y avait un amendement parlementaire qui devait financer un nouveau coût, il fallait proposer soit une augmentation du prix du tabac, une augmentation de l'alcool, ou de tout ce qui était autour de la pornographie. C'était prévu par la loi.
D'accord. Très vite. En fait, j'ai centré ça sur les territoires en référence à l'invitation qui m'a été faite. Donc, j'ai pas axé ça sur le rôle de l'État, etc. J'ai tout un truc sur le rôle de l'État, il n'y a aucun souci. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au rôle de l'État. Là, j'ai centré sur les territoires, parce qu'il m'a semblé que c'était ça, quand même, le purpose de la commande. Mais oui, bien sûr qu'après, il faut faire un truc multi-niveau, multi-gouvernance, pour savoir ce qui relève des compétences de l'État, ce que l'État peut faire, etc. En l'occurrence, j'en ai parlé, puisqu'on a parlé du budget national qui est voté par l'État. Enfin, deuxièmement, il y a plein de comptabilités sur les coûts évités. C'est une des techniques préférées des économistes de l'environnement sur les coûts évités en termes d'abattement du carbone, etc. Et notamment les chiffres qui sortent sur si on réduisait la pollution, ça permettrait d'économiser 500 milliards d'euros, etc. Ce qui, à mon avis, est totalement fou et faux, c'est-à-dire que ça repose sur des techniques statistiques qui sont extrêmement contestables, notamment la valeur d'une vie statistique, parce qu'en fait, la raison comment vous arrivez à ces chiffres-là, c'est parce que vous monétarisez la vie humaine et que vous la faites rentrer dans les analyses coûts-bénéfices qui vous donne les 500 milliards. Moi, je pense qu'il faudrait calculer en termes d'espérance de vie, pas de coût économique évité, mais de coût humain évité, en termes d'espérance de vie, et après de pourcentage des dépenses sociales évitées par rapport à des politiques environnementales qui seraient ambitieuses. Voilà. Et ce serait. Mais la comptabilité dont vous parlez, monétaire, etc., c'est ce que fait le CGDD à longueur de journée sur voilà ce qu'on pourrait éviter, etc. Et ça repose sur des techniques qui sont contestables.
Oui. D'abord, vous confirmez, on revient au ministère de
l'Agriculture. Ah. Et bien voilà un point de consensus.
Ce n'est pas ma bonne intervention. On peut prendre quelques kilos au passage.
Oui, ça c'est.
Non, vous êtes, là, c'est un peu dans la continuité de ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire, comme vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes allé directement sur la décroissance. Moi, j'ai des souvenirs de.
Je n'ai pas prononcé le mot de décroissance.
Je vais un peu vite dans mon propos. Mais...
C'est vous qui allez vite.
Mais moi, j'ai des souvenirs de. Quelques années en master d'économie et développement durable, où on essayait de nous enseigner une voie qui essayait de concilier l'économie libérale et l'environnement en disant la fameuse règle, vu on intègre le coût marginal de l'externalité négative dans le prix de marché et après on laisse faire le marché et tout ça fonctionnera tout seul. Je serais curieux de vous entendre, même si j'ai utilisé votre avis sur cette analyse-là, mais surtout la question est plutôt comment vous analysez le fait que cette approche-là qui était censée essayer de concilier. Et de ménager la chèvre et le chou, finalement, on n'a même pas essayé de la mettre en œuvre. Il y a la théorie que dans...
Si, elle est mise en œuvre. Si, alors, réponse rapide. D'abord, je n'ai pas prononcé le mot décroissance. Je ne suis pas du tout un avocat de la décroissance. Je pense que la décroissance nous a fait perdre 10 ans dans le débat sur la transition du bien-être. D'accord ? Le choix n'est pas croissance-décroissance. Ce n'est pas en augmentant le PIB qu'on va résoudre les problèmes. Et ce n'est pas en le faisant baisser qu'on va résoudre les problèmes. C'est en sortant de cette échelle-là, de ce référentiel-là, pour viser directement les finalités qui sont le bien-être humain. Décroissance, croissance, ce sont des instruments. Ça a toujours été des instruments et c'est tout le problème. Ce sont les instruments qui masquent les finalités. D'accord ? Et dans mon livre, il n'y a pas une fois le mot décroissance. Donc ça, c'est un point fondamental parce que c'est vraiment un positionnement important de mon argument dans le débat sur ces questions-là. Et la deuxième question, si ça a été essayé, l'économie de l'environnement en version mainstream, il y a une version mainstream de l'économie de tout, et donc notamment de l'économie de l'environnement, c'est exactement ces modèles-là. Et moi, tout mon point avec ce livre sur repenser l'économie de l'environnement, d'accord ? Et de mettre comme sous-titre Sustainability and Justice, c'est repenser l'économie de l'environnement à l'aune des questions de justice et plus d'efficacité économique. Voilà. Donc c'est quand vous faites une taxe carbone, la question n'est pas l'efficacité économique, combien de points de croissance vous allez gagner, on s'en fout. La question c'est les inégalités sociales que vous parviendrez à réduire, etc. etc. Donc changer complètement, là, ça revient à la question des indicateurs. Donc non, l'économie de l'environnement néoclassique, elle est aujourd'hui florissante, et c'est comme ça qu'on fait l'économie de l'environnement partout, y compris dans les ministères, etc. Et c'est un énorme problème. Et il faut justement repenser ça à l'aune des questions de justice. Parce qu'en fait, c'est en articulant une fois de plus les questions de justice et d'environnement qu'on arrive à avoir une économie intéressante pour le 21e siècle.
On prend deux dernières questions, et puis on s'arrête.
Ouais. Juste, vous avez donné pas mal d'exemples, mais... La Nouvelle-Zélande, c'est 3 millions d'habitants, la Finlande, c'est
plus des moutons.
Il y a aussi 6 millions en Écosse. Comment on réfléchit à cette transition juste sur des territoires un peu plus grands ? Et je dis ça parce que, en fait, vos exemples, c'est sur les villes, sur ces territoires urbains. Mais la question, la problématique d'inégalité en termes de mobilité entre une ville et un territoire urbain, une agglomération comme Paris, et le Cantal, la Lozère, où ces problématiques se posent aussi, et pour, dans d'autres rapports, notamment par rapport à l'accès aux services, etc. Comment on les traite parce que les indicateurs qu'on va développer sur certaines villes, comment on les met en œuvre pour des territoires un peu plus compliqués en matière de gouvernance, etc. Ça, c'est le premier point. L'autre aspect, c'est sur les indicateurs, je trouve. Il manque, et j'y avais pensé déjà quand on avait été à Grenoble, il manque tout un plan dans les indicateurs sur le collectif, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de culture, on n'en parle jamais. Quand on fait des études, là en ce moment il y a beaucoup d'études qui ont paru sur, avec les élections municipales, on voit bien la question de la sécurité, la question de l'étranger arrive très vite aux côtés de la question de la santé, et de la question de l'emploi. Donc, ces sujets-là, ils doivent être traités aussi dans, si on parle de l'indicateur de bien-être.
Alors, je réponds pas, je prends une dernière question, deux petites questions et tu réponds trois maintenant.
Oui, moi, c'était une intervention sur le terme sortir de la croissance, entrer dans le bien-être qui vous plaît bien, et qui renvoyait peut-être sur justement l'intervention juste avant, et puis celle de Catherine Pilon sur l'État. Comment les ressources, notamment publiques, peuvent se réarticuler par rapport à cette notion que vous avez annoncée de travailler ces indicateurs de bien-être opératoire à des niveaux territoriaux. Comment se redistribuent du coup les formes de défense publique qui sont encore pensées à un niveau national et donc théoriquement égalitaire, alors que les indicateurs de bien-être vont montrer qu'il y a des priorités qui vont être différentes selon les territoires dont on parlait dans la question précédente.
Là, ça va être très dur, j'ai une dernière question. Et tu
okay.
C'est très court. Mais c'est très bien de vous parler de créer un observatoire des inégalités environnementales.
Et quand on parle beaucoup d'articulation, je vois qu'il y a un observatoire des inégalités. Est-ce qu'il faut créer chaque fois des observatoires d'inégalités sociales ou telle chose? C'est bien que les observatoires des inégalités souffrent en question environnementale et qu'on n'est pas inégalité.
Alors, sur cette dernière question, c'est la même personne qui a fait l'Observatoire des inégalités qui veut faire l'Observatoire des inégalités environnementales. Donc c'est clairement une branche du projet, d'accord? Et de toute façon, ce n'est pas un organisme public. Donc c'est un truc privé. Et donc, en fait, on pourrait en créer 30, on ne prendrait de sous à personne. Donc c'est pas un problème, si vous voulez, d'en créer 30. Mais en l'occurrence, c'est clairement une manière de prolonger ce projet de l'Observatoire des inégalités. Pour répondre à votre question, c'est un très bon point auquel j'ai pas assez réfléchi. Cette idée que les dépenses territoriales sont en fait des dotations, etc., qui sont pensées comme égalitaires et qu'il y a une inégalité dans l'appréhension du bien-être, etc., c'est une très bonne idée à laquelle je vais réfléchir. Et j'ai pas de réponse toute faite, donc il faut que j'y réfléchisse.
Je nous pose à tous, en fait.
Mais c'est très bien, c'est une très bonne idée. Sur la question de la sécurité, si les citoyens... pose cette question-là dans les conférences citoyennes, d'où l'intérêt du processus démocratique. La démocratie, c'est pas seulement un résultat, c'est une méthode de la définition du bien-être. C'est une dimension du bien-être et c'est aussi la méthode par laquelle on le définit. Donc s'il pose cette question, elle sera prise en compte. Point à la ligne. Donc bien sûr que ça fait partie des choses. La question, c'est à quelle hauteur il la pose. Et ce que moi j'observe, si vous voulez, ça fait un petit peu 15 ans que les gens qui travaillent sur la question de l'environnement attendent ce moment-là, c'est que l'environnement est enfin la première priorité des Français. Donc si vous voulez, je parle de ça et de la question de la santé, etc. Mais la sécurité est une question tout à fait importante et donc, et notamment on le voit avec ce qui se passe là, et donc voilà, les citoyens auront, et à ce moment-là, il faudra aussi mesurer. Et à ce moment-là, on arrivera sur des questions intéressantes. Qui est sécurité objective versus insécurité subjective, voilà. Après, on a plein de questions intéressantes. Et votre première question, c'était quoi? Ah oui, la Nouvelle-Zélande, il ne faut pas mépriser les petits pays. C'est comme mépriser les petits territoires. Enfin, 3,5 millions, donc ça fait 3 fois Paris. Donc si vous voulez, la question, c'est si on avait 3 fois Paris qui se mettait sur cette question du bien-être, en France, on ferait des progrès considérables. Une transition, il y a toujours des pionniers. D'accord? Quand la Californie décide qu'elle va mettre des standards pour les véhicules de consommation de carburant, vous avez l'administration Obama qui, 7-8 ans après, dit ça va être le standard fédéral. Donc quand vous êtes pionnier, au début vous êtes seul, et après vous devenez un modèle. Donc une transition, c'est très important d'avoir des pionniers. Le Bhoutan, c'est minuscule, c'est rien du tout, c'est insignifiant. Ça inspire les gens depuis 40 ans sur comment est-ce qu'on peut mesurer le bien-être, y compris dans un pays en développement. Donc c'est très important. Les pays nordiques, c'est des petits pays, c'est des pays qui sont extraordinaires sur plein de choses, qui ont aussi leurs problèmes, mais qui sont des laboratoires extraordinaires. Et c'est des petits pays. Il y en a, le plus grand fait 9 millions d'habitants. Donc si vous voulez, non, une transition, c'est polycentrique, c'est tout le monde en même temps, et c'est, il faut qu'il y ait des territoires pionniers. L'affaire du Bec est loin, c'est tout petit, et ça inspire plein de gens sur la question de la permaculture. Grande-Synthe, c'est minuscule. Langouette, il y a 600 habitants, et ils font des choses absolument incroyables, et le monde entier vient voir ce qu'ils font et comment on fait des bâtiments énergie positive dans des villages de 600 habitants en faisant du crowdfunding. Voilà. Donc moi, je serais pour une multiplication et un florissement de toutes ces initiatives, et vraiment tout le monde...
Que mille fleurs fleurissent.
Que mille fleurs fleurissent.
Merci, voilà, merci beaucoup.